à Rencontres spirituelles aujourd'hui, il sera question de Catherine Labouré, dont c'est la fête plus tard. D'ailleurs, l'an dernier, je vous ai fait toute sa vie à la fin de décembre. Et je ne recommencerai pas aujourd'hui, je ne vais pas me répéter. Mais c'est l'anniversaire, depuis hier, à 5h10 en fait, de l'apparition extraordinaire qu'elle a reçue, Sainte-Catherine Labouré, en plein Paris, rue du Bac, une apparition de la Vierge. C'est survenu en 1830. Et c'est une apparition à laquelle, d'abord, on n'est pas obligé d'y prêter foi, c'est pas un dogme. Mais moi, personnellement, j'y crois, après avoir étudié les documents. Il y a là quelque chose d'absolument authentique, c'est cette jeune sœur qui venait d'entrer chez les sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez, ces sœurs de vêtues de bleu, autrefois, qui portaient cette immense coiffe blanche, elles avaient l'air des colombes quand elles se promenaient. Les gens plus âgés se souviennent de ça. On en a eu à Montréal quelques-unes. Oh, il y a bien longtemps, dans les années 40, après la guerre, je pense. Et puis, ces sœurs de la charité, bien, avaient reçu cette jeune fille, Catherine Labouré. Je vais vous raconter un peu sa vie en bref, et puis nous allons surtout nous attarder à sa personnalité, sa sainteté propre, et puis à cette apparition étonnante. Elle est un peu comme Sainte Bernadette, vous savez, à Lourdes, Sainte Bernadette, une fille bien ordinaire, très très simple. Sainte Catherine Labouré, elle est comme Sainte Bernadette, elle doit au fond, si on peut dire, toute sa réputation, toute sa gloire, toute sa renommée à une délicatesse de la Sainte Vierge. Et plus d'une fille de la charité a été, comme elle, pleine de zèle pour son beau métier extraordinaire de sœur de la charité. C'est un peu comme tant de religieuses, de tant de communautés qui sont d'un dévouement sans bornes. J'ai été l'objet, moi, d'attention comme ça de religieuses absolument bouleversantes dans les hôpitaux, comme à l'Hôtel Dieu, les sœurs hospitalières. Et elles ne sont pas montées sur les autels, on les ignore, on a même oublié leur nom, ces milliers et les milliers de religieuses extraordinaires, mais elles, on la connaît, Sainte-Catherine Labouré. Parce que Notre-Dame est apparue à la sœur Labouré. La dévotion à la médaille miraculeuse qu'elle lui a révélée, c'est le résultat de ses apparitions. Ça a contribué, évidemment, à la faire canoniser, cette sœur archi-ordinaire. Mais est-ce qu'elle était vraiment ordinaire, hein? Elle est née un 2 mai, en 1806, comme je vous avais tout raconté ça, hein, son père était cultivateur, était né à la campagne. Puis, son père est quand même devenu maire de la petite localité après sa naissance, puis il avait épousé une demoiselle Gontard, Louise Madeleine Gontard, en 1793, juste au moment de la Révolution, là, après la Révolution, au moment des les moments les plus troubles, les plus difficiles. Et Madame Labouré, elle avait 36 ans quand elle a mis au monde sa deuxième fille, en fait, Catherine, qu'on appelait aussi Zoé. Et il y a eu ensuite Marie-Antoinette, qu'ils appelaient Tonine, à la campagne, comme ça. Il y a eu Auguste aussi. Enfin, de toute façon, elle était mère de 10 enfants, cette femme, puis elle est morte en 1815. La plus aînée, la plus âgée, Marie-Louise, qui était née sous la Révolution, dirige quelque temps le ménage, puis elle entre chez les filles de la charité. C'est déjà un commencement d'appel pour la petite Zoé, future Catherine. Elle entre chez Filles de Charité en 1818. Alors c'est là que Zoé, future Catherine, dit à Tonine, là, « À nous deux, nous allons faire marcher la maison. Elle est entreprenante. C'est une fille simple, mais entreprenante. Hein? Elles ont 12 ans et 10 ans seulement. Et bientôt, Zoé fait sa première communion et voici qu'elle veut entrer en communauté elle aussi. » C'est pas le dégoût du travail, au contraire, elle s'acquitte vite très bien de ses devoirs de ménagère. Mais son père, Monsieur Labouré, est sévère, un peu silencieux. Il n'a absolument rien à redire sur sa fille, il la trouve vraiment formidable, il l'aime beaucoup. Il faut voir la petite, d'ailleurs, auprès du colombier, elle s'occupe des colombes. Elle est charmante. Elle est fêtée par tous ces pigeons qui l'aiment beaucoup. Mais elle se met à jeûner les vendredis et les samedis, malgré sa sœur Tonine, plus jeune, qui la menace de la dénoncer à son père. Alors elle dit, Bubu, vas-y, vas-y. Ça la gêne pas. Elle part sec à l'occasion. Elle a du, je vous le répète, du caractère. C'est une sainte, bien sympathique. C'est un modèle pour tout le monde, sa Catherine Labour. Et c'est pour ça que je vous en veux. Même si c'est une sœur, on peut tous l'imiter, tellement c'est simple. Alors sa sœur Tonine réussit pas à la convaincre de cesser de jeûner. D'ailleurs, la petite Zoé, mais elle est gentille, elle est bonne, elle est aimable, je vous le dis, elle est douce, mais elle est stricte, hein? Un brin sévère sur la religion, puis d'ailleurs, elle donne beaucoup aux pauvres. Elle est pas riche, mais elle donne aux pauvres, c'est un peu ce qu'il y a. Elle va prier à l'église aussi. Et puis, elle aime bien regarder la statue de la Sainte Vierge qui tient un beau bébé, Jésus, n'est-ce pas, qui est muni, comme il convient dans ce pays, à la campagne, là, d'une belle grappe de raisin. Alors, devenue majeure, 18 ans, quoi, Zoé, Catherine, là, elle parle à son père, et si elle imitait son aîné qui est entré chez les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul? Il refuse, il l'envoie faire une espèce de noviciat inattendu chez un de ses frères, à Zoé, là, qui tient à Paris un petit restaurant pour ouvriers. Pour elle, c'est un purgatoire, ça. Alors, de là, en 1829, Zoé, qui a 23 ans, passe chez une belle-sœur qui dirige à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, un pensionnat pour les jeunes personnes de la noblesse locale. Alors là, Zoé, notre future Sainte Catherine Labouré, pourrait enrichir son bagage de connaissances qui est bien léger, mais ces demoiselles font trop souffrir la petite paysanne, là. Ne la respecte pas du tout. Alors, elle va le plus tôt possible au bureau de bienfaisance qui est tenu par des filles de Saint-Vincent-de-Paul, justement les filles de la charité, avec leur coiffe immense. Et enfin, M. Labouré cède, il accepte. Bon. Puis en avril 1830, Zoé entre à ce qu'on appelle au séminaire, c'est-à-dire au noviciat, si vous voulez, là où on apprend à être une sœur charitable, plein de cœur, plein d'amour pour notre Seigneur. C'est rue du Bac, à Paris. Êtes-vous déjà allé rue du Bac? C'est merveilleux. Vous savez que près de 2 millions de personnes chaque année qui vont rue du Bac vénérer cet endroit où la Vierge est apparue le 27 novembre au soir 1830 à Paris. Alors, elle n'a pas de doute de son père. Son père ne lui donne pas d'argent pour rentrer. Mais la belle-sœur de Zoé fait le nécessaire. Et puis là, bien, c'est à cette toute nouvelle novice que la personne la plus fantastique, la Mère de Dieu, qui est belle dans son plus beau, comme elle écrit quand elle parle de la Sainte Vierge, belle dans son plus beau, c'est ce qu'elle dit naïvement, je trouve ça sympathique, elle lui apparaît plusieurs fois dans cette année 1830, elle vient d'entrer, et la sœur Labouré garde un silence absolu sur ses visions, hein, et sur ce que lui a dit la Sainte Vierge. C'est seulement en 1876, donc 46 ans plus tard, qu'elle en parle à sa supérieure, la supérieure, seul son confesseur, M. Aladel, qui est un prêtre de la mission, donc un prêtre de la congrégation fondée par Saint-Vincent-de-Paul, lui, il est né en 1800. C'est lui qui reçoit les confidences. Il a 30 ans à ce moment-là, quand les apparitions arrivent. Et lors du procès canonique de 1836 sur les apparitions, M. Aladel, ce prêtre, Père Aladel, il obtient qu'on ne la cite pas à comparaître, qu'on respecte son anonymat, sa discrétion, son humilité. Après des visions du cœur de Saint-Vincent, car elle a des visions étranges. Vous savez, les visions, il faudrait que je vous en parle un jour, il y a des degrés de vision. Hein. Bon, elle a des visions aussi de notre Seigneur comme roi. Elle voit la Vierge une nuit de juillet entre 23h30, c'est tard, hein, et 2h du matin. Et sœur Catherine a été conduite à la chapelle, d'ailleurs, par étrangement un enfant de 4 ou 5 ans qui est en blanc. Elle serait son ange gardien. Ça arrive dans certaines vies de saints. Sainte Françoise Romaine a eu cette grâce étrange. Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est possible. Ça semble curieux, mais à mon avis, c'est possible. Et la Vierge est mécontente de l'observance des religieux. C'est curieux. Elle fait des reproches. Elle confie ça à cette jeune sœur novice. Parce que l'observance des deux communautés fondées par Saint-Vincent de Paul, ben, c'est pas... on fait n'importe quoi, dit la Sainte Vierge. Ils perdent leur temps. Y a trop de visites. Ah, la petite décadence qui s'insère dans les communautés, c'est facile. Et la Sainte Vierge prédit des choses extraordinaires. La mort violente de Monseigneur Darbois en 1871, 40 ans plus tard, et ça arrive. Et puis, c'est donc vers 5h30, le 27 novembre 1830, que la sœur Labouré voit finalement l'Immaculée Conception debout sur une boule blanche. Elle écrase un serpent. Et puis, elle tend étrangement, c'est très symbolique et très surréaliste, elle tend un globe dans ses mains à la hauteur de l'estomac. Elle tient plutôt un globe dans ses mains à la hauteur de l'estomac. Puis elle a les yeux dirigés vers le ciel. Et le globe disparaît, puis les bras de la Vierge s'étendent vers le bas, hein, comme on la voit sur la médaille miraculeuse. Et ses mains sont rayonnantes et les rayons partent de ses doigts ornés chacun de trois anneaux qui sont couverts de pierreries et ces rayons symbolisent les grâces répandues sur les personnes qui les demandent et les pierres sans rayons sont les grâces qu'on oublie de demander. Puis il y a un ovale qui se forme, puis il y a en haut « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », c'est écrit, puis une voix qui dit « Faites frapper une médaille sur ce modèle ». Puis au revers, bien, on voit la lettre « M ». Il y a deux cœurs en bas, cœur de Jésus, cœur de Marie, puis il y a 12 étoiles tout autour. Et dès lors, sœur Catherine désire ardemment voir réaliser une statue grandeur naturelle qui représente sa Vierge. Et le globe, c'est le monde entier, dit-elle, la France, chaque personne en particulier aussi, c'est là qu'il y a tout ce monde. Et aussi, elle voudrait un tableau, puis un autel commémoratif. Et ça, c'est le martyre de toute sa vie, de chercher à obtenir tout ça. Elle, une toute petite sœur, toute humble, ça lui est demandé des choses qui lui semblent impossibles. Et nous allons maintenant écouter, justement, de Pergolèse, le Stabat Mater, interprété par Gérard Laine, qui est un contre-ténor. C'est sur disque Veritas. Nous sommes tombés un peu dans le milieu du Stabat Mater et les dernières paroles, je les traduis, c'est « Faites que mon cœur s'embrase d'amour pour le Christ, mon Dieu, afin que je puisse lui plaire. » Que c'est beau ce Stabat Mater, hein? On n'entend plus ça, dommage. Et alors, après son séminaire, son noviciat, Sœur Catherine Labouré est envoyée à l'hospice d'Enghien, qui est transféré 12 rue Picpus à Paris, à l'extrémité du faubourg Saint-Antoine, quoi. Et dès juin 1832, donc moins de 2 ans plus tard, Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris, fait frapper la médaille. Ça a été vite, hein? La médaille souhaitée est frappée. Et c'est l'une des premières victoires, ça. Mais c'est pas tout. L'affaire, c'est de trouver le moyen de la répandre vraiment. Et ça permet, cette médaille, à un moment donné, de ramener, plus tard, en 1878, à l'obéissance envers Rome, un évêque schismatique, Monseigneur Dominique de Prat, qui avait été évêque de Poitiers, puis archevêque de Malines, en Belgique, et qui se meurt. Et il s'est converti. De septembre 1834, on revient donc au début, là, à février 1836. L'apparition, je vous le rappelle, est arrivée en 1830. Donc, de 1834, en septembre, à février 1836, bon, un an et quelques mois, 100 000 notices sur la médaille sont vendues. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous raconte un autre miracle qui est arrivé, puis ensuite, je vais vous raconter un peu ce qu'elle raconte, elle, de son apparition. Le 20 janvier 1842, donc moins de 12 ans après l'apparition, vous savez, il y avait un riche juif de Strasbourg, Alphonse Ratisbonne, fils de banquier, qui était âgé de 28 ans, qui était fiancé à une nièce à lui, qui était vraiment sympathique et charmante. Puis ils font un voyage et ils se retrouvent, malgré eux, de passage à Rome. Ils n'avaient pas tellement l'intention d'aller à Rome. Mais ils avaient un ami, le baron de Bussière à Rome, qui était un protestant convaincu, qui était devenu catholique, et qui lui fait accepter, un peu par l'entremise de sa fille, petite fille, lui fait accepter une médaille miraculeuse, une médaille de l'Immaculée Conception. Et le juif, qui est poli, dans ce temps-là, tout le monde était très poli, puis très distingué. Et alors... lui est peu enclin à donner dans le papisme, évidemment. Ce juif, les histoires de papisme et puis de catholicisme, ça le fatigue. Et puis, il visite Rome le lendemain. Il attend Bussière dans une petite église, parce que Bussière s'en va faire dire une messe pour un mort, ou voir à des funérailles. Et puis, il entre dans l'église Sant'Andrea delle Frate. À Rome. À chaque fois que je vais à Rome, j'y vais parce que je trouve ça trop extraordinaire. Et quand il aperçoit tout à coup sur un autel la Vierge Marie pleine de majesté et de douceur, telle qu'elle était sur la médaille qu'il avait reçue, il s'agenouille comme en extase. Il n'a pas parlé, mais il a tout compris. C'est la science infuse, comme on appelle, un bientôt baptisé parce qu'il comprend tout. Il comprend tout du catholicisme par infusion. C'est un miracle extraordinaire. Il est baptisé, il est examiné d'ailleurs par les dignitaires de l'Église au Vatican, tout ça. Ils sont surpris de voir qu'il sait tout. Alors il rompt ses fiançailles avec sa nièce, il entre en religion, il fonde avec son frère Théodore les prêtres et les religieuses de Notre-Dame de Sion. Et puis, pour amener les Juifs à reconnaître Jésus comme le Messie tant attendu. Ils sont tous deux, les deux frères, convertis au catholicisme. On a les carnets de retraite de sœur Catherine Labouré. Il n'y a aucune allusion à la visiteuse Notre-Dame, la Sainte Vierge. Rien, elle n'a rien écrit dans ses carnets. On lui demande un jour comment faire oraison. C'est pas difficile. À la chapelle, je dis au bon Dieu, « Seigneur, me voici. » « Donnez-moi ce que vous voudrez. Et s'il me donne quelque chose, je le remercie. Puis s'il ne me donne rien, mais je le remercie encore parce que je n'en mérite pas davantage. » Écoutez bien ce qu'elle dit ensuite, c'est très beau. « Je lui dis ce qui me vient à l'esprit. » C'est une sainte pour tous nous autres, et c'est une sainte tellement charmante, tellement sainte, tellement vraie. « Je lui dis ce qui me vient à l'esprit. Je lui raconte mes peines, mes joies. » Et je l'écoute. Vous savez, si vous l'écoutez, il vous parlera à vous aussi. Il parle toujours quand on y va bonnement et simplement. C'est une sœur qui prépare sa communion dès la veille. Puis elle dit aux jeunes sœurs, « Allons, mes petites, il faut faire quelque chose pour le bon Dieu, pour vous préparer à la communion de demain. » C'est très simple. Sa mort était très calme, très douce, le dimanche 31 décembre 1876. Il y a une cassette de l'émission de l'an dernier, datée du 31 décembre, qui est disponible chez Marc Alexandre, toujours. Il y a toutes les cassettes, lui, les 500 cassettes. Elle meurt vers 7 heures le soir, en 1876. Et pas longtemps après, moins de 20 ans, en 1894, on a institué une fête de la Vierge à la médaille miraculeuse. Puis la cause de canonisation de sœur Catherine Labouré a été introduite dès 1907, 10 ans avant le terme requis. En 1933, il y a Pie XI qui l'a proclamée bienheureuse, puis finalement en 1947, il y a 50 ans, Pie XII l'a déclarée sainte. Zoé, qu'est-ce que ça veut dire son nom de baptême? Ça veut dire « vie ». C'est un nom grec. Catherine, c'est un autre nom grec, et ça veut dire « pure ». Oui, pure, tout simplement. C'est ça, Catherine Labouré. Elle a raconté cette vision. C'est écrit en 1841, et ce ne sont pas dans ses carnets, ça, c'est autre part. Le 27 novembre 1830, qui se trouvait le samedi avant le premier dimanche de l'Avent, c'est demain, samedi, avant le premier dimanche de l'Avent. Nous sommes au dernier jour, demain, de l'année liturgique. Ce sera le nouvel an, demain, en fin d'après-midi, quand nous commencerons à célébrer les premières messes du dimanche de l'Avent. Oui, c'est le nouvel an pour nous, catholiques. Comme les Juifs ont leur nouvel an, les Bouddhistes ont leur nouvel an, nous, nous avons un nouvel an, mais on n'y pense pas. J'en profite pour vous souhaiter à tous une heureuse et sainte année. Le 27 novembre, donc 1830, qui se trouvait le samedi avant le premier dimanche de l'Avent, à 5h30 du soir, après le point de la méditation, il m'a semblé entendre du bruit du côté de la tribune, à côté du tableau de Saint-Joseph, comme le froufrou d'une robe de soie. Ayant regardé ce côté-là, j'ai perçu la Sainte Vierge à la hauteur du tableau de Saint-Joseph, et la Sainte Vierge était debout, habillée de blanc. Une robe en soie, blanc aurore, faite ce qu'on appelle à la Vierge, vous savez, avec des manches plates, un voile blanc qui descendait jusqu'en bas, par-dessous le voile, j'ai aperçu ses cheveux en bandeau, par-dessus une dentelle à peu près de 3 centimètres de hauteur, sans fronce, c'est-à-dire appuyée légèrement sur ses cheveux, la figure assez découverte, les puits appuyés sur une boule, c'est-à-dire une moitié de boule, ou du moins, il ne m'a paru que la moitié, et puis, tenant une boule dans ses mains qui représentait le globe, elle tenait les mains élevées à la hauteur de l'estomac d'une manière très aisée, les yeux élevés vers le ciel. Ici, sa figure était de toute beauté. Oh, je ne pourrais la dépeindre. Et puis tout à coup, j'ai aperçu des anneaux à ses doigts revêtus de pierreries plus belles les unes que les autres, les unes plus grosses et les autres plus petites, qui jetaient des rayons plus beaux les uns que les autres. Ces rayons sortaient des pierres, les plus grosses, des plus gros rayons, toujours en s'élargissant, et des petites, des plus petits, et toujours en s'élargissant en bas, ce qui remplissait tout le bas. Je ne voyais plus ses pieds. À ce moment où j'étais à la contempler, la Sainte Vierge baissa les yeux en me regardant. Une voix se fit entendre et me dit ces paroles, « Cette boule que vous voyez représente le monde entier, particulièrement la France, et chaque personne en particulier. » Ici, je ne sais pas m'exprimer sur ce que j'ai éprouvé et ce que j'ai aperçu, la beauté et l'éclat, les rayons si beaux. Ah, c'est le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent, dit la Sainte Vierge. En me faisant comprendre combien il était agréable de prier la Sainte Vierge et combien elle était généreuse envers les personnes qui la prient, que de grâces elle accorde aux personnes qui les lui demandent. Quelle joie elle éprouve en les accordant. À ce moment où j'étais, où je n'étais pas. Je jouissais. Je ne sais. Dans le récit de Catherine Labouré au sujet de cette apparition du 27 novembre en fin d'après-midi, en 1830, elle dit « Il s'est formé un tableau autour de la Vierge, un peu ovale. où il y avait en haut du tableau ces paroles: Ô Marie conçue sans SPPQAV. À vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Écrite en lettres d'or. Alors une voix se fit entendre qui me dit: Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. C'est très important. On porte pas ça comme un talisman. C'est pas de la superstition. On porte ça avec confiance et avec amour, comme on porte sur soi la photo d'un fils décédé que l'on aime, d'un père ou d'une mère décédée que l'on aime, et on garde ça contre soi. C'est normal. C'est dans la nature humaine. Mais là, à plus forte raison, c'est un objet de métal qui porte l'image glorieuse de Marie. Et on la porte avec confiance parce qu'elle est notre mère. « Voici ta mère, » dit Jésus. Et Catherine Labouré ajoute: « À l'instant, le tableau m'a paru se retourner, et j'ai vu le revers de la médaille. Inquiète de savoir ce qu'il fallait mettre du côté du revers de la médaille, après bien des prières, un jour, dans la méditation, il m'a semblé entendre une voix qui me disait « L'aime, L apostrophe M, et les deux cœurs en disent assez. » Car il y a un M derrière la médaille, puis deux cœurs en dessous. Puis elle ajoute maintenant: depuis 2 ans, écrit Catherine au père Aladel, son directeur, qui est le seul à savoir tout ça. Je suis tourmenté et pressé de vous dire d'élever un autel tel que je vous en ai prié dans l'endroit où la Sainte Vierge a apparu. Il sera privilégié de beaucoup de grâce et d'indulgence, et une abondance de grâce pour vous et toute la communauté et toutes les personnes qui viendront le prier. Alors, sœur Catherine Labouré a aidé personnellement l'exécution de ce que la Sainte Vierge demandait, pour ce qui était de frapper la médaille, par l'intermédiaire de son confesseur, comme on voit. Puis dès le début, mais la diffusion de cette image dans le peuple chrétien, c'est une sorte de miracle, surtout si l'on songe à l'état des moyens de communication sociale de l'époque. Il n'y en avait pour ainsi dire pas, hein. Au moins 300 millions d'exemplaires sont frappés en 1832, 2 ans après l'apparition. 300 millions d'exemplaires entre 1832 et 1842. 300 millions. C'est dire que tous les catholiques, on peut dire, du monde entier sont touchés par cette diffusion en moins d'une génération. L'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen, tout de suite favorable à l'idée de la médaille, est l'un des grands secours, comme je vous ai dit. L'enquête diocésaine qu'il a ordonnée en 1836 a établi le sérieux des faits de 1830. Ça a confirmé la place importante déjà prise par la médaille dans la piété du peuple chrétien. Mais la cause n'est définitivement gagnée que grâce à la conversion foudroyante, comme je vous ai dit, du juif Ratisbonne à Rome en 1842. Les miracles se multiplient, des miracles éclatants, qui seront aussi éclatants que ceux de Lourdes. Plus éclatants encore sont les conversions obtenues, et plus généralement, c'est un courant de ferveur chrétienne qui est déclenché par ce moyen apparemment absolument infime et insignifiant. Curieux, comme Dieu prend des moyens simples. Et la Sainte Vierge aussi. Peut-être que nous manquons nous-mêmes de simplicité dans nos moyens pour nous convertir nous-mêmes et pour aider les autres. Ce grand courant de dévotion s'insère profondément dans l'histoire de la sainteté catholique au 19e et 20e siècle. C'est d'abord tout ce puissant renouveau de la piété puis de l'apostolat dans les deux familles fondées par Saint Vincent de Paul, les prêtres de la mission, les lazaristes, et les sœurs de la charité de Saint Vincent de Paul. Ça va jusque dans les missions lointaines. Pensez à Jean-Gabriel Perboire, qui a été canonisé il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé, je lui ai consacré une émission. Il a été martyrisé en 1840 en Chine. Bien, il connaissait déjà, puis il utilisait la médaille Saint-Jean-Gabriel Perboire. Puis le Saint-Curé d'Ars, dès 1836, 6 ans après l'apparition, il fait placer dans son église, au-dessus de l'autel de la chapelle de la Sainte Vierge, une statue en bois doré de l'Immaculée Conception de la médaille miraculeuse. Et nous avons à Montréal une église qui lui est dédiée, l'église de Sainte-Marie de la Médaille Miraculeuse, je crois que c'est sur la rue Schlaga dans l'Est. Alors, nous en sommes rendus à nous demander qu'est-ce que c'est que cette sainte étrange. Eh bien, tous les saints authentiques, il me semble, sont des modèles. C'est pour ça qu'on vous parle souvent des saints ici, puis des gens qui sont morts comme des saints. Comme hier, cette femme américaine extraordinaire, Dorothy Day. Alors, tous les saints authentiques sont des modèles. Pour les chrétiens de tous les temps, mais certains sont plus facilement imitables. Et c'est le cas de Catherine Labouré. La sainteté de Catherine présente un style, je dirais, un profil, qui nous la présente de façon très sympathique. Ainsi, en tout premier lieu, elle a un manque total de bigoterie. Oui, une sœur qui n'est pas bigote du tout. À vrai dire, c'est le cas de tous les saints. Mais c'est pas toujours perceptible dans les relations qu'on nous raconte à leur sujet, parce que souvent, il y a des gens un peu bigots qui les ont connus, puis qui nous racontent des affaires un peu étranges. Non, manifestement, ce n'est pas la piété qu'a aimé Catherine. Non, ça ne l'intéressait pas, la piété, dans le sens un peu pénible du mot piété. Ce qui l'intéressait, c'était le Seigneur Jésus et sa mère, Immaculée. Elle s'intéressait à quelqu'un, et à quelqu'une, je dirais. Ses supérieurs, d'ailleurs, disaient « Sœur Catherine Labouré se montrait pieuse et vertueuse, sans qu'on n'eût jamais rien aperçu d'extraordinaire dans ses manières et surtout dans sa dévotion. Nullement mystique dans ses allures, elle n'affectait pas plus les grandes vertus que les dévotions particulières. Elle se contentait de les avoir au fond du cœur, et en pratique, suivant la règle, bonnement et droitement. » Comme ses supérieurs parlent comme des femmes solides. Pourquoi elle paraissait si ordinaire à ses compagnes? C'est une confidence qui est faite par une sœur. Elle dit, « Ayant passé 6 années avec sœur Catherine et travaillé continuellement 1 an avec elle, il semble que je pourrais citer un grand nombre de détails pleins d'intérêt et d'édification. » Mais je suis forcé de l'avouer, sa vie a été si simple, si uniforme, que je ne trouve rien à remarquer. C'est comme celle qui disait la même chose de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce sont des saintes simples. Sa simplicité, nous l'admirons beaucoup plus aisément aujourd'hui. Elle avait une extrême pudeur à l'endroit de sa foi, Catherine Labouré. C'est M. Aladel, le prêtre de la mission, son directeur, qui disait « solidement pieuse au milieu de sœurs qui paraissaient l'être davantage ». Et son neveu, M. Meugnot, qui est entré aussi chez les lazaristes, disait « Dieu était dans son cœur plus que sur ses lèvres ». Chez elle, dit sœur Dufès, l'amour divin n'était pas démonstratif, elle était peu communicative. Et elle vivait de la vie cachée en Dieu. C'est Élisabeth la sœur dont je vous ai déjà parlé aussi, Élisabeth la sœur, quelle femme magnifique. Je ne veux pas être une bavarde spirituelle. Il faudrait peut-être que je cesse de faire mes émissions. Alors Catherine Labouré ne se serait même pas confiée à son journal intime, comme je vous disais tout à l'heure. Mais le silence qu'elle garde avec ses sœurs et surtout avec les personnes du monde, bien, elle le rend volontiers en faveur des pauvres. Un autre très bien sympathique là, de Catherine Labouré, c'est une grande liberté de comportement. Elle est naturelle. C'est parfaitement compatible, d'ailleurs, avec la plus stricte obéissance. Elle a un franc-parler qui me ravit. Elle est comme Jeanne d'Arc ou comme Sainte Bernadette Soubirou. Mais c'est un franc-parler qui étonne ses compagnes. Elle est obligée de s'excuser des fois. Elle dit « Je vois bien que je ne suis qu'une orgueilleuse. » Quand on cherche à pénétrer son secret, elle répond brusquement « Ne parlez donc pas à tort et à travers. Hein? » Parce qu'on se doute que c'est elle la visionnaire, parce que ça s'est dit, on a imprimé des médailles, on a dit que ça avait été une révélation, on a fait des médailles. Elle a des pointes d'humour aussi. Quand on lui dit « Dites-nous quelque chose sur la Très-Sainte-Vierge », c'est les jeunes postulantes là, qui lui demandent ça, les nouvelles arrivées. Eh bien, mademoiselle, faites bien votre séminaire, votre noviciat, quoi, et priez bien la Sainte Vierge. Simplement. Elle sait qu'un petit sourire, un peu narquois, paraît-il. Mieux encore, elle est gaie, hein? Elle reçoit tout le monde, dit-on, avec un visage souriant, sachant bien que la tristesse ne vaut rien pour la recherche de la vertu. Mais elle est prophète, dans le sens d'annoncer des choses de l'avenir qui lui sont confiées par la Sainte Vierge. C'est curieux. Elle prophétise avec enjouement et parfois même avec une douce ironie, et plus particulièrement dans la conversation avec les jeunes. Son neveu, le Philippe Meunier, dont je viens de vous parler, à un moment où il avait 17 ans, elle lui dit, « Si tu veux entrer chez les messieurs de Saint-Lazare, les lazaristes, les disciples de Saint-Vincent de Paul, on te recevra. On peut être bientôt nommé supérieur, tu sais, et on est plus libre. » Elle a de l'humour, hein, supérieure, donc plus libre. C'est pas si sûr. Hein. Elle ajoute, « On peut voyager, voir du pays, aller en mission en Chine comme le vénérable Père Boire. On peut aussi revenir. » Or, toutes ces suppositions, où il n'avait vu, lui, à 17 ans, que des petits traits de malice de sa tante, des taquineries affectueuses, mais ça s'est réalisé pour ce monsieur Meunier, qui est devenu lazariste, qui est devenu supérieur, qui est devenu missionnaire en Chine, puis qui est de nouveau supérieur en France. C'est une anecdote étrange qui nous rappelle un autre trait moderne de Catherine, son attachement à sa famille, dont elle se préoccupait. Elle aimait sa famille, qui était nombreuse, je vous ai dit, une dizaine d'enfants. Elle s'occupait beaucoup par souci de salut, du salut éternel des siens, et aussi de leur santé. Mais cela faisait problème parce que M. Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul, est-ce qu'il n'avait pas écrit dans sa règle « Les sœurs n'auront point d'attache, non pas même à leurs parents ». C'est dur. Hein? On oubliait parfois que le même saint avait dit « Pensez-vous que je n'aime pas mes parents, mais je dois agir selon les mouvements de la grâce et non de la nature ». Alors de même, on s'étonnait à l'occasion de l'avoir demandé bonnement des petits soulagements qu'une autre, très mortifiée, aurait pu se refuser parce qu'elle voulait soigner sa propre santé. Plusieurs vont la trouver un peu trop occupée, d'ailleurs, de sa santé. Ce qui ne l'empêchait pas de recevoir comme faveur de la Sainte Vierge, disait-elle, des souffrances plus vives qu'elle éprouvait au jour de ses fêtes. Ni de prier toujours à genoux et sans appui lorsque, jusque dans sa douloureuse vieillesse, vous êtes-vous déjà tenu à genoux assez longtemps sans vous appuyer sur quoi que ce soit? Ça fait mal dans le bas du dos, c'est terrible. Nous étions obligés à Saint-Mélan-du-Lac, novices, de nous agenouiller comme ça, on n'avait rien devant nous. Puis bon, des fois, on était à genoux pendant des litanies des saints interminables. Oh, ça faisait mal, c'était terrible. Alors, ce rigorisme, ça peut nous heurter aujourd'hui de ce qu'elle fait. Mais elle avait envie de faire des choses comme ça pour lutter, disait-elle, contre le diable. Mais on a oublié la liberté des saints, les plus mortifiés. Hein. C'est François d'Assise qui, tout en se mortifiant considérablement, demandait du gâteau à la frangipane. Alors elle aussi, elle demande parfois des petites saveurs, des petites faveurs, des petites choses. En tout cas, il y a trois leçons principales pour notre temps qui semblent se dégager de la vie de Sainte Catherine. C'est avant tout une jonction harmonieuse qu'elle a su réaliser entre le plus haut mysticisme puis le réalisme chrétien le plus terre-à-terre, et d'autre part, c'est l'importance dans la vie de l'Église contemporaine du mouvement marial qu'elle a déclenché, hein, avec ses conséquences universelles et même écuméniques. Fantastique, cette petite médaille. Puis enfin, une conception foncièrement juste de l'apostolat des laïcs, qui implique quoi? Le souci de porter témoignage, sans perdre de vue les réalités sociales, ni même politiques, elle avait le sens concret. Hein? Alors nous allons écouter encore un extrait du Salve Regina. que c'est beau du Bergolèse, Pergolesi, Pergolèse, grand compositeur. Stabat Mater interprété par un contre-ténor, Gérard Laine, sur disque Veritas. Les contre-ténors, c'est toujours beau pour les grands chants religieux. C'était le Salve Regina, vous connaissez ça? Voici un Salve Regina traduit un peu de façon spéciale. Salut ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Nous, les enfants des hommes, nous crions vers toi. Nous nous tournons vers toi, avec nos difficultés et nos peines. Toi qui nous aimes et nous viens en aide, montre-nous la miséricorde, montre-nous Jésus, ton enfant. Ô douce Vierge Marie. Si vous désirez un livre sur Catherine Labouré, bien, il y a celui de l'abbé Laurentin qui est très connu. Malheureusement, je l'ai prêté, il ne m'est jamais revenu. Et puis, j'avais prêté à un malade, il est mort sur les entrefaites et sa sœur a acheté ça à la poubelle. C'est gentil. Catherine Labouré à la poubelle, quelle horreur. Mais Claude Messonnier, Claude M. Diffusion, m'a remis, il y a quelque temps, un Catherine Labouré, la sainte de Reuilly. Catherine Labouré de Albert Lanquetin, L-A-N-Q-E-T-I-N. C'est un livre paru à l'occasion du centenaire, mais ça date, disons, d'une vingtaine d'années, mais ça demeure très intéressant. C'est un petit livre de 150 pages avec des photos. C'est très, très bien fait. Mais avant de terminer, je voudrais vous signaler aussi un livre étonnant publié aux éditions du Cerf de Jacques Maître, distribué par Fides, c'est Mystique et Féminité. C'est un essai de psychanalyse socio-historique. Il est question dedans de Catherine Labouré, à un moment donné, parce qu'il est question de centaines de mystiques récentes, y compris évidemment Thérèse Martin, mais des gens qu'on ne connaît pas, comme Marie Martel, morte en 1913, Françoise Elgouarche, morte en 1898, etc. Et pour Catherine Labouré, on dit que les visions de Catherine, elles étaient accompagnées de révélations apocalyptiques, où elle disait « Les temps seront mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France et le trône sera renversé. » Et c'est vrai, d'ailleurs. « Le monde entier sera renversé par les malheurs de toutes sortes et de grands malheurs arriveront. Et le danger sera grand, mais Saint-Vincent de Paul protégera sa communauté, etc., etc. Et le monde entier sera dans la tristesse. » C'est un peu le cas, hein. Et tout au long de son existence, Catherine aurait été fort discrète sur ces phénomènes extraordinaires qu'elle aurait vécu. Mais c'est assez significatif que l'abbé Laurentin hésite devant ces choses-là. Hein. Il a écrit, en tout cas, « Vie authentique de Sainte Catherine Labouré », deux gros volumes parus chez Desclés de Brouwer en 1980. Et dans l'encyclopédie catholicisme, on ne fait pas allusion aux prophéties de Catherine qui ont eu un si grand retentissement pourtant au siècle dernier. Mais je voudrais vous raconter avant de terminer un miracle extraordinaire. C'était en janvier 1995. La supérieure des Sœurs de la Charité décroche le téléphone à Paris. Une voix d'homme résonne à ses oreilles, une voix qui vient de loin avec un fort accent étranger. Un message urgent de l'archevêque de Recife au Brésil. Depuis qu'elle est supérieure rue du Bac, elle devrait être rodée à ce genre d'appel, mais une fois de plus, son cœur bondit en elle et elle doit reprendre son souffle pour répondre à l'archevêque. Il dit avoir toutes les preuves en main, tous les documents, et il se porte garant de la véracité de l'histoire. L'histoire, quoi? Mais cela nous ramène 3 semaines en arrière, donc à la fin de 1994... ou au début de 95, et puis une Brésilienne débarque à Paris. Elle a tenu à faire ce long voyage, car depuis quelque temps, son cœur de mère s'est brisé de douleur, et elle a entendu dire que, rue du Bac, à Paris, la Vierge faisait souvent de grandes choses pour ceux qui venaient l'implorer. Elle a pris la petite avec elle. Elle va l'amener rue du Bac pour demander un miracle. Elle va l'asseoir sur le fauteuil où Marie elle-même s'est assise lorsqu'elle est apparue à Catherine Labouré. Et alors, sûrement, il se passera quelque chose. Alors elle parlera à Marie comme une mère parle à une autre mère. Elle criera vers elle. Et la petite n'a que 5 ans, et sa maladie est déclarée incurable. Il ne faut pas qu'elle meure. Marie verra sa détresse, et elle ne la laissera pas partir comme ça, hein. Alors la mère et la petite fille passent le grand porche du couvent. Elles rejoignent au fond de la cour la chapelle de la médaille miraculeuse, puis elles entrent. Il y a une foule très dense qui prie. La mère reconnaît les lieux, si souvent contemplés sur les cartes postales. Elle s'avance doucement vers le chœur, puis elle prie à genoux avec sa petite fille. Elle a repéré le fauteuil, mais dommage, il est entouré d'un cordon, et on ne peut pas l'atteindre. Mais pour les Brésiliens, comme pour les Orientaux, les cordons protecteurs ne sont pas forcément un obstacle, et on sait, et la petite n'est pas venue de si loin pour toucher seulement des yeux le fauteuil, alors comment faire? Ah, justement, il y a des sœurs qui sont là, qui s'affairent près du fauteuil. Alors, elle dit, ma sœur, s'il vous plaît, laissez la petite s'asseoir sur le fauteuil. On dit, excusez-moi, madame, je ne peux pas vous le permettre, car alors tout le monde le demanderait, et c'est pas possible. Alors, le cœur de la mère chavire devant l'interdiction. Le fauteuil faisait partie de son plan, de son pèlerinage. Il faut trouver une solution. Tiens, les sœurs sont parties. Alors, une idée éclaire son pauvre cœur, puis elle chuchote à sa fille, « Écoute-moi bien, tu vas passer sous le cordon, et à toute vitesse, tu vas passer à quatre pattes sous le fauteuil. Quand tu seras dessous, avec la main, tu toucheras l'endroit où la Vierge est assise, et vite, tu reviendras ici. Mais vas-y, à toute vitesse. » Et la petite ne se le fait pas dire deux fois. Elle rejoint à quatre pattes le fauteuil, puis elle pose sa joue longuement sur le velours du siège. La mère reste figée. Puis la petite revient calmement vers elle. « Pourquoi tu as fait cela, gronde la mère? Je t'avais bien dit d'aller seulement dessous et à toute vitesse. Mais maman, répond l'enfant radieux, c'est la dame qui m'a dit de poser ma tête sur ses genoux. » De retour au Brésil, l'enfant était complètement guéri. L'histoire fit tellement de bruit là-bas que l'archevêque de Recife voulut prévenir lui-même les sœurs de la charité rue du Bac. Il avait en main tous les documents médicaux, toutes les pièces nécessaires pour affirmer cette guérison inexplicable, humainement. « Vous savez, répondent inlassablement les sœurs là-bas, vous savez, ici, des miracles, il y en a tous les jours. » Et oui, c'est comme ça, et qui y croit? Qui y croit vraiment? Ô Vierge Mère de Dieu, Marie Immaculée, nous nous consacrons à vous sous le titre de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Que cette médaille nous soit un signe certain de l'affection que vous nous portez, puis un constant appel des devoirs que nous avons envers vous, et en la portant, puissions-nous être à jamais bénis. Sous votre tendre protection et préservée par la grâce de votre Fils, ô très puissante Vierge Marie, Mère de notre Sauveur, gardez-nous près de vous, à chaque instant de notre vie, à nous qui sommes vos enfants, obtenez la grâce d'une bonne mort, afin que nous puissions, en union avec vous, jouir de la félicité éternelle. Amen.